France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons du silence, cette semaine. Des pouvoirs du silence, je serais même tentée de dire, de sa polyphonie. Car souvent, les silences parlent. Nous évoquerons les silences obligés, même si on n'en pense pas moins, c'est-à-dire en somme les silences faussement dociles. Nous parlerons du silence du trauma. Nous nous intéresserons au silence insolent du Don Juan de Molière. Mais ce matin, c'est le silence de la nature qui nous occupe. Ce silence qui est peut-être révélateur avant tout de notre surdité ou de notre manque d'attention. Mais c'est un silence que l'on comble aussi parfois par de pures et simples projections. Et la nature se retrouve à dire ce que nous souhaitons qu'elle dise. Comme vous l'entendez, ça fait du bruit, la nature. Et donc, lorsqu'est évoqué le silence de la nature, l'hypothèse de notre surdité est bien la première à explorer. Et si les écrivains avaient eux-mêmes une certaine tendance à magnifier le silence? Dans un poème assez connu, Vert doré, Gérard de Nerval invite l'homme à comprendre qu'autour de lui, tout est sensible. Il l'avertit. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. Et plus loin, toujours Nerval. Souvent, dans l'être obscur habite un dieu caché, et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. C'est magnifique, mais on note l'omniprésence du sens de la vue. Le seul bruit qui semble demeurer chez le poète attentif à la nature, c'est sa voix à lui, comme le suggèrent d'ailleurs les allitérations en cr venant bercer ce poème. Bonjour Anne Simon.
Bonjour Géraldine Mühlmann.
Directrice de recherche au CNRS, professeure à l'École normale supérieure à Paris, vous êtes une spécialiste de Proust, auquel vous avez consacré 4 livres. Mais vous êtes aussi l'initiatrice en France des études littéraires portant sur l'animalité et vous vous intéressez à ce qu'on appelle la zoopoétique et je crois maintenant même l'éco-poétique. Bonjour Lionel Obadia.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'anthropologie à l'Université Lyon 2. Vous vous intéressez à toutes les pratiques humaines impliquant quelque chose qui se fait souvent nommer de la spiritualité. D'ailleurs, la spiritualité, c'est le titre de l'ouvrage que vous avez publié en 2023 aux éditions La Découverte. Enfin, bonjour Christian Lorenzi.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie expérimentale à l'École normale supérieure à Paris. Vous faites des recherches sur ce qu'on appelle, je crois, l'écologie auditive humaine. Vous nous expliquerez ce que c'est. Vous nous avez transmis ces bruits de la nature que l'on a déjà entendus de Bernie Krause. Je voudrais vous proposer d'en écouter un bout supplémentaire. Qui est ce Bernie Krause qui vous a envoyé, peut-être pas seulement à vous d'ailleurs, ces bruits de la nature ?
Bernie Krause est ce qu'on appelle un pionnier de l'écologie des paysages sonores, qui se rebaptise aujourd'hui éco-acoustique. C'est une discipline qui étudie les interactions entre les organismes et leur environnement, mais selon la modalité acoustique. Et Bernie a eu ce coup de génie dans les années 70 d'aller planter son micro dans des habitats naturels pour enregistrer ce qu'on appelle des paysages sonores. Et ce que vous avez entendu ici, ce sont des enregistrements qui ont été menés dans les années 80 à un an de distance, à l'aube, avec exactement le même matériel, la même procédure. Et si vous avez pu apprécier lors du premier enregistrement la richesse sonore produite par ce qu'on appelle le chorus matinal, cette explosion acoustique produite pour l'essentiel par les vocalisations d'oiseaux, eh bien vous avez pu noter lors de la deuxième écoute que cette explosion matinale n'a pas eu lieu. Le paysage n'est pas totalement silencieux, mais très appauvri. Et ce qui s'est passé entre le moment 1 et le moment 2, eh bien, c'est ce qu'on appelle une déforestation sélective, une opération qui consiste à enlever un arbre tous les 20 mètres avec la promesse que ça n'affectera pas l'habitat naturel.
Et
pour vos
vrai?
Yeux, oui. Cela n'a aucun impact.
Voilà, j'allais vous
mais pour vos oreilles, c'est une toute autre histoire, comme on dit Bernie Krause.
Donc la déforestation s'entend plus qu'elle ne se voit.
Absolument.
Et ce manque de son que nous aurions, lié au dommage que subit la nature, ce manque de son nous fait par ailleurs du mal, dites-vous.
Oui, oui, puisque cela nous conduit vers un printemps silencieux. J'emprunte cette formule à Rachel Carson, la biologiste qui, dans les années 60, avait lancé l'alerte face à l'extinction massive d'oiseaux. Nous sommes, comme vous le savez, face à une nouvelle grande extinction. Et cette grande extinction aura de nombreux effets, des effets anticipés, des effets non anticipés, et l'un d'entre eux consiste à nous conduire vers un printemps silencieux, c'est-à-dire une absence. Ces animaux qui vont nous quitter et qui vont ternir notre environnement acoustique et probablement nous priver d'effets de ressourcement majeurs, ces moments dans lesquels on se sent bien.
Silent Spring, printemps silencieux, c'est le titre du livre de Rachel Carson que vous venez d'évoquer, paru en 1962. Anne Simon, vous vous intéressez aussi à Rachel Carson, un texte d'elle ancien, plus ancien, 1941, Under the Sea Wind, sous le vent de la mer, vient d'être traduit chez Wild Project, postfacé par vous. Pourquoi cette autrice, comme on dit désormais, est-elle majeure pour notre sujet, Anne Simon ?
Elle est majeure à divers titres. D'abord parce que c'était une biologiste marine qui s'est qui fréquentait réellement le terrain, les bords de mer, et une poète. Et donc elle a vraiment réussi à faire passer par le langage des aspects du vent, du ciel, de la mer, et donc pas seulement des animaux, hein, les houles, les ondes, les vibrations, etc. Elle a réussi à les faire passer dans le langage, et donc c'est magnifique, parce que dès son premier livre, qui est en 1941, qui est Sous le vent de la mer, elle nous fait entrer, en quelque sorte, dans les fleuves, dans l'eau, par des moyens linguistiques qui ne se contentent pas de nous focaliser sur la vue, mais aussi sur les sons et sur les vibrations notamment.
Est-ce qu'il y a, comme entre les deux petits extraits sonores que nous avons entendus de Bernie Krause, une évolution ? Nous avons entendu une évolution, d'abord la nature très riche en sons, puis moins riche. Est-ce que la démarche de Rachel Carson est analogue au sens où, en 1941, elle évoquait les bruits de la mer, les bruits de la nature, et dans Printemps silencieux, en 1962, elle s'inquiète de l'amoindrissement de ces sons.
Oui, il y a vraiment une évolution. Alors, Sous le vent de la mer, déjà, elle précise à un certain moment, vers la fin, que la pêcherie monstrueuse, si vous voulez, la raclure des fonds sous-marins et la surpêche vont provoquer un appauvrissement terrible, non seulement de la vie, comme l'a dit Christian Lorenzi, mais aussi de sensibilités différentes des nôtres. Mais vous avez raison, dans Sous le vent de la mer, c'est une ode à tout ce qui est maritime et aux vies qui peuplent les cieux, les sables, les fonds sous-marins, etc. Elle a de très, 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 très beaux passages sur le silence des abîmes. Et puis, la disparition des sons et des êtres, elle est encore en filigrane. Et puis, évidemment, près de 20 ans plus tard, c'est la catastrophe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui vient de la radio. Et oui, son livre « Sous le vent de la mer », il est tiré d'émissions qu'elle faisait pour le grand public sur la vie marine.
Alors Lionel Obadia, vous avez aussi un homonyme à la radio, vous le savez très bien.
Oh oui.
Il était sur France Info pendant des années à parler des courses de chevaux.
Oui.
Mais vous n'êtes pas lui, vous êtes un anthropologue des croyances.
Oui.
Et je voudrais d'emblée dans cette émission, là en ce début d'émission, que vous définissiez cette chose qui s'appelle apparemment l'éco-spiritualisme.
Alors, l'éco-spiritualisme ou l'éco-spiritualité, c'est un vaste mouvement international qui se fonde sur une idée, donc la reconstruction d'une certaine image de la nature avec laquelle on aurait eu prétendument des rapports harmonieux, oubliant évidemment toute l'hostilité de la faune, la flore et les difficultés des sociétés humaines à s'y adapter, mais en reconstruisant quelque chose qui est de l'ordre d'une relation cosmique, et en y projetant des éléments de sagesse, des éléments de croyance, des éléments d'une nouvelle sacralité, qui tentent de tisser, un lien complètement idéalisé avec un cosmos dans lequel nous serions pleinement partis.
Alors quand vous dites idéalisé, vous suggérez que dans les courants de ce mouvement éco-spiritualiste, il y a énormément de projections, de constructions qui font dire plein de choses à la nature qu'en réalité nous mettons en elle et qui n'y sont pas.
Totalement, parce que en fait, ça repose sur une réinterprétation des traditions, des textes, des odes, des légendes, des mythes, etc. On est en ayant une lecture sélective et en allant cherchant par exemple dans la mythologie les éléments qui arrivent à nous convaincre qu'il y a un message écologique ou écologiste dans les mythologies, alors que les mêmes mythologies, les mêmes légendes ou les mêmes traditions orales nous disent également qu'il y a du danger dans le rapport avec la nature, qu'il y a encore une fois quelque chose qui est à négocier avec les forces naturelles et les forces surnaturelles. Et donc c'est une reconstruction hyper moderne de traditions qui sont réinventées pour l'occasion.
Mais dans la simple pratique d'écouter, qu'on peut avoir aussi dans des moments calmes, où on s'écoute soi-même, dans le yoga par exemple,
exactement,
on cherche son souffle, dit je crois, Ujjayi, si je ne me trompe pas, on écoute son propre souffle. On peut aussi écouter une nature qu'on n'écoute pas si jamais on fait des séances de méditation un peu loin d'un centre urbain bruyant. Est-ce que dans la simple pratique, il y a de la projection ? On entend des choses qu'on y a mises, en fait.
Oui et non, parce que évidemment physiquement on est dans un environnement qui réduit la sonorité urbaine, qui réduit la sonorité domestique et le volume de décibels dans lequel on baigne en permanence. Mais en même temps, quand on écoute, alors la notion d'écoute va au-delà des facultés auditives et effectivement mobilise de l'interprétation et des processus de signification. Il y a plein d'entités. On s'écoute soi, on écoute un alter ego, on écoute le cosmos, on écoute Dieu, on écoute une multitude d'entités qui sont graduées du naturel au surnaturel.
Et il y a de l'autosuggestion là-dedans, l'idée qu'il y a des forces qui entrent en nous, Gaïa, ce nouveau Dieu,
la suggestion de collective, parce que
ça
moi
existe,
je suis anthropologue,
ouais,
et donc
ouais,
ce qui m'intéresse c'est les croyances en tant qu'elles sont partagées, transmises, qu'elles infusent des corps sociaux. Je suis pas psychologue, je connais pas trop les mécanismes, enfin pas tellement les mécanismes à échelle de l'individu, mais ce qui est intéressant, c'est que ça crée des collectifs ou des collectifs d'identification. On peut faire de la méditation sans jamais participer effectivement à une communauté effective, mais être dans l'introspection, c'est une démarche qui est culturellement signifiante et socialement déterminée. Ouais.
Alors ce problème des projections sur la nature au moment où on prétend, et souvent très sincèrement, l'écouter attentivement, est-ce un problème qui vous intéresse, Christian Lorenzi, et qui intéresse notamment les auteurs, je vous poserai la même question à Anne Simon, qui sont des auteurs importants pour vous? On a parlé de Rachel Carson, on a parlé aussi de Bernie Krause qui entend des sons. Est-ce que ce problème du risque de mettre dans la nature plein de choses qui viennent de nous, certes nous sommes dans la nature, mais qui sont un petit peu abusives par rapport au son de la nature, cette espèce d'idée d'une pureté du son naturel, elle n'est pas un peu construite, Christian Lorenzi? Vous intéressez à ce problème?
Il y a dans toute perception une part liée au monde qui nous entoure, ce monde physique, et une part qui nous est propre. Et c'est le percept, c'est une rencontre entre ces deux univers, un mélange. Donc effectivement, nous projetons beaucoup de notre cerveau, de notre monde intérieur sur ce monde extérieur. Le monde, effectivement, de la nature, comme les autres aspects de notre univers acoustique, est interprété. Ça, on ne peut pas le nier.
Oui.
Quoi qu'il en soit, moi, je suis frappé par ce qu'on appelle les effets de ressourcement, à savoir le fait que l'écoute du monde naturel semble déclencher de manière quasi automatique chez nous des sentiments de bien-être hein, que l'on peut mesurer objectivement à partir de notre électrocardiogramme hein, et qui reflètent le fait que au contact de ces sons, notre organisme change de régime, hein, notre organisme se met en mode repos digestion, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose d'assez mystérieux pour nous tous.
Et
pourquoi ?
C'est vrai que lorsqu'on fait une balade en forêt pour digérer, on digère mieux ?
Digérer, je ne pourrais pas vous le dire, mais en tout cas, votre corps se manifeste et vous le dit, il se sent mieux. Pourquoi ?
Et les personnes qui entendent mal profitent moins d'une balade en forêt que celles qui entendent bien.
C'est toute la question. Nos travaux pointent vraiment vers deux chemins, vers notre propre printemps silencieux, celui dont on vient de parler, qui fait l'objet des travaux en écologie acoustique de Bernie Kraus, de Jérôme Sueur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Ces animaux nous quittent. Mais il y a un deuxième chemin vers le printemps silencieux qui est lié au fait que notre biologie est faillible. Nous vieillissons et vieillissant, nous devenons malentendants. Et pour citer Neil Ansel, un écrivain malentendant, naturaliste amateur, ce n'est pas le monde qui nous quitte, c'est justement l'inverse. C'est à notre propre absence que nous devons nous résigner, dans la mesure où cette perte auditive va progressivement nous déconnecté du monde du vivant. Et cela, l'audiologie moderne, cette science qui étudie la perte auditive neurosensorielle et son impact, n'en a pas encore complètement pris conscience. Nous allons vers notre propre printemps silencieux de par cette catastrophe écologique et environnementale, mais également de par le fait que nous sommes une espèce qui... en vieillissant, et c'est tout ce que je vous souhaite, va se priver. Merci beaucoup. Ouais. Va se priver de ces délices-là.
Anne Simon, comment réagissez-vous à celles et ceux qui demandent, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire, les sons de la nature? Quand on écoute à la campagne des sons, non seulement on entend des tracteurs, mais supposons un monde sans tracteurs, on entend des gens travailler la nature, cultiver la nature, c'est aussi, ça produit du son. Et cette espèce d'idée qu'il y a un son naturel pur, n'est-elle pas une construction, voire une projection?
Oui, je pense que c'est une projection. Dans toutes les cultures, on sait très bien intuitivement qu'on n'est pas opposé à la nature, mais qu'on lui est entrelacé, qu'on est lié à elle. Et se dire qu'on pourrait atteindre une nature pure en étant tout écoute, c'est oublier que nos oreilles, nos papillons, nos cerveaux sont eux-mêmes naturels. C'est pas parce que nous les utilisons, nos synapses et nos nerfs auditifs, pour réfléchir, écrire, faire de la musique, etc., que nous sommes séparés de la nature, bien au contraire. Et donc, faut pas oublier que, oui, nous avons peut-être parfois l'impression que nous projetons sur la nature des schémas humains, mais l'humain est un anthropos, il fait partie de la nature, c'est aussi un primate, c'est aussi un mammifère, etc. Donc, pour moi, c'est une illusion de penser, c'est encore être dans la coupure nature-culture que de penser qu'on pourrait atteindre une nature.
Mais alors,
pure.
Quelle est l'angoisse de Carson quand elle dit il y a un risque de printemps silencieux ?
L'angoisse, elle est tout à fait légitime, justifiée, qui est que le printemps silencieux, c'est avant tout l'empoisonnement des terres, des oiseaux, notamment par le DDT, mais pas seulement, donc par des polluants majeurs qui non seulement affectent la santé des sols et la santé donc des vers de terre, des oiseaux, de toute une chaîne trophique qui est fondamentale, mais atteint aussi notre santé, la santé des enfants par exemple, qui vivent dans des paysages abîmés. Et donc le printemps silencieux, c'est avant tout la tuerie qui est faite par l'industrie agroalimentaire.
C'est une métaphore. Il n'y aura pas de silence.
Ça n'est pas une métaphore, c'est une réalité. Le printemps qui était le moment où le rossignol chantait, où les oiseaux chantaient, s'est tué tout simplement parce qu'il n'y a plus d'oiseaux.
Mais je veux dire, il y aura du son humain, malheureusement, du son destructeur de la nature, du son des bulldozers, du son... C'est ça,
même le printemps silencieux. De notre voix, et même de notre musique classique, si on le veut, ou du rap, ou de ce qu'on veut.
Voilà.
Être enfermé dans notre propre son, c'est terrifiant, en réalité.
C'est même très bruyant, le silence, le printemps silencieux.
Tout à fait. Oui, c'est très bruyant, le printemps silencieux, c'est bruyant de nos bruits à nous. Et donc, nous nous sommes développés en coévolution avec la nature, et voilà, faire taire la nature, ça nous fera taire aussi.
I'm hearing, looking out my window right now, hearing some strange fucking sounds out there. I have no idea what the hell they are. It's rattling the earth around here. We're in Long Island, January 18th. And it's fucking loud. You hear that? You hear that shit? Fuck is that shit?
What?
I have no idea, like, it's coming straight out of the sky. What is that?
Bah oui, what is that? Excusez-moi, Lionel Obadia, vous nous avez envoyé cet ensemble de sons. De quoi s'agit-il?
J'adore ces sons et je pense que ça va faire écho justement au débat. C'est des vidéos virales qu'on a retrouvées alors qu'on était captées grâce à la technologie ambulatoire que sont nos smartphones à partir des années 2010 surtout, et un petit peu en ascension jusqu'au milieu des années 2010. Ça s'est complètement tassé depuis. Et ce sont des strange sounds, c'est-à-dire partout en Russie, au Canada,
des sons étranges
qu'on n'arrive pas à interpréter et que immédiatement donc sont plaqués dessus des systèmes d'interprétation qui sont, c'est la Terre qui nous parle évidemment sans langage, mais avec une sémiotique qui nous permet de trouver des significations avec deux sons différents. C'est très intéressant que vous ayez focalisé sur ces deux exemples, parce que le premier, c'est un cri d'agonie, c'est une sorte d'animal gigantesque cosmique qui est en train d'agoniser et qui signifie justement que la Terre est en train de mourir. Et l'autre, ce sont comme des trompettes, c'est-à-dire un signal divin de la part d'un sacré transcendant qui dit Dieu va détruire la Terre parce que les hommes l'ont mal utilisée. Donc c'est aussi quelque chose d'assez intéressant du point de vue anthropologique, non seulement en vertu de l'interprétation de la Terre nous parle parce que nous sommes en train de la maltraiter, donc un fracas cette fois contre le silence de la Terre qui réagit par rapport à ça. Et la deuxième chose, c'est la réaction de l'écosystème numérique dans lequel on vit, justement par rapport à ces préoccupations qui nous occupent aujourd'hui, qui sont des préoccupations écologiques. Et on voit bien à quel point, alors c'est du fake, c'est de la mésinterprétation.
C'est du fake, je voudrais vous demander.
C'est pas du
vous
fake.
Vous pensez que c'est du pipeau, quoi.
Moi, je suis pas spécialiste de l'audition, mais les gens qui se sont intéressés à ça ont dit que c'était simplement des conditions particulières de résonance particulière de certaines ondes d'industrie locale.
Donc c'est peut-être plutôt humain.
C'est
alors,
complètement
encore
humain.
Une fois, l'humain est dans la nature. Mais humain au sens de quelque chose qui viendrait prendre le pas sur des sons naturels.
Oui, mais qui est interprété en son naturel. C'est ça qui est intéressant. Et là, on gravit une échelle supplémentaire, c'est-à-dire qu'ils sont immédiatement transcrits en termes surnaturels. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient? Il y a quelque chose d'ailleurs, et donc derrière il y a une représentation sous-jacente qui est celle d'une terre avec une intention, avec une souffrance, avec une émotion, qui est Gaïa en pleine agonie. Dans tous les cas, c'est une alerte. Mais c'est une alerte des humains aux humains en passant par le travestissement du son. Et je profite d'avoir la parole pour rebondir sur ce que disait mon collègue Lorenzi tout à l'heure à propos du silence. Je trouve ça particulièrement intéressant que les grandes chaînes de bien-être qui nous vendent de la technologie du bien-être et qui flirtent avec le spirituel nous vendent des petits dispositifs, des kits qui reproduisent le son de la nature. Je ne citerai pas le nom de la marque, mais vous la connaissez très bien, puisque la notion de nature est dans son titre. Et on nous vend tout un tas de dispositifs de reproduction du son pour se rebaigner de nouveau, mais en contexte hyper moderne et hyper technicisé, pour retrouver cette espèce de plénitude qui est la plénitude naturelle.
Alors, naturelle. Là, je ferai une
Christian Lorenzi, professeur de psychologie expérimentale expérimental, je précise, parce que là, sur les sons étranges, donc vous allez répondre à Lionel Obadia, il y a un enjeu psychique. C'est-à-dire, on dit tout de suite, vient de dire, c'est pas moi qui parle, hein, vient de dire Lionel Obadia, qu'on passe tout de suite à une construction surnaturelle.
Dans ce cas-là.
Dans ce cas-là, oui.
Oui, alors oui, j'ai deux remarques à faire. D'abord, ces écoutes-là déclenchent, en tout cas chez moi, un sentiment d'étrangeté. On est en passe de devenir étranger à notre propre univers auditif quand on entend ces sons artificiels. Mais je vais rebondir surtout sur cette tentative de survendre du naturel dans nos environnements urbains, en sonifiant, par exemple, des quais de gare avec des sons d'oiseaux. Il faut pas oublier que l'observateur, humain ou non humain, n'est pas idiot. Il calcule l'incongruité ou la congruité de ce qu'il entend, et entendre un son d'oiseau dans le sous-sol, voilà, du RERB, n'est pas crédible. Donc je ne suis pas sûr que ces sons-là vont déclencher ces 10 effets de ressourcement.
Mais quand même l'étrangeté, de certains sons. Là, vous avez la réponse, vous. Qu'est-ce que c'était ces sons que
je n'ai pas pu les interpréter, mais effectivement, on se sent étranger, en tout cas, à cet univers sonore. C'est pas nécessairement désagréable. C'est un peu comme lorsque j'écoute de la musique contemporaine. Ça me plaît. Moi, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Est-ce qu'il y a quelques similarités avec d'autres sons naturels? Je ne sais pas.
Anne Simon, sur tout ce qui vient d'être dit, les sons étranges, mais aussi la nature en boîte, les kits pour écouter les oiseaux artificiellement. J'aimerais bien, sur les deux sujets, vous entendre. L'être humain a du mal à ne pas construire et interpréter, n'est-ce pas ?
Oui, alors le problème, c'est pas que l'humain construise et interprète, c'est ce qu'il fait avec ses constructions et ses interprétations. C'est quand même dramatique de nous donner des espèces de sons en boîte, comme on met les sardines en boîte, pour voilà, nous endormir, nous faire méditer dans des environnements d'où on fait disparaître les arbres et donc les oiseaux et les voilà qui vont avec.
Est-ce que je peux quand même vous poser une question sur ce point ? Vous répondrez ensuite à l'autre question. Mais vous voyez, on dit que pour un certain nombre de maladies, dont d'ailleurs certaines formes de dépression, ça fait du bien d'avoir de la lumière. Donc il y a des gens qui font de la luminothérapie. Mm-hmm. Il y a aussi pour des questions de peau. On le fait parce que tout le monde ne peut pas habiter là où il y a du soleil beaucoup. Finalement, est-ce plus dramatique d'écouter des sons de la nature là où on n'est pas dans la nature, c'est-à-dire utiliser en effet l'artifice pour écouter des sons de la nature?
Moi, l'artifice me dérange pas, sauf si l'artifice prend la place complète du naturel. C'est-à-dire que il faudrait que les personnes qui font de la luminothérapie ou qui écoutent ces sons pensent aussi à prendre le RER et aller au bout du RER pour aller se balader au bord de la Seine, par exemple. Mmh. C'est pas très compliqué. Après, sociologiquement, ça peut l'être beaucoup plus, parce que ce sont déjà des démarches dont il faut pouvoir avoir la pensée qu'elles sont possibles. Mais non, moi ce qui me frappe, c'est à quel point le bruit humain, depuis la plus haute antiquité, est considéré comme quelque chose de néfaste. Et avec raison. Moi, quand je vois le bruit des réseaux sociaux, qui sont très silencieux, on scrolle notre écran de téléphone sur les réseaux sociaux en silence, en solitude complète, en étant atteinte par un bruit du monde qui n'a pas besoin d'être sonore pour nous détruire. Et si on part 3700 ans avant nous, et ben on se rend compte que dans l'épopée d'Atraacis, dans l'épopée de Gilgamesh, etc.
On nous avait prévenu.
Oui, les dieux punissent les humains parce qu'ils font trop de bruit et lui envoient un déluge. D'abord la famine, ce que vous voulez, des maladies, etc. Mais les dieux envoient un déluge parce que les humains font trop de bruit.
Et la nature est-elle, elle, dans ses sons non humains, vraiment uniment bienfaisante? Je veux dire que les sons étranges qu'on a entendus, dont nous ne connaissons pas bien l'origine, pourraient aussi raviver des angoisses. Après tout, la nature et ses bruits à elle, non humains, c'est peut-être aussi quelque chose d'angoissant. On a le droit de poser cette question ?
Complètement. Il s'agit, je suis complètement d'accord avec Lionel Obadia pour penser que faire de la nature une espèce de Gaïa bienfaisante, édulcorée, c'est absolument pas de cela dont les écrivains parlent et dont moi je suis en train de parler. La notion de peur, d'effroi, de danger font partie d'un rapport au monde adversatif et qui est absolument pas à mettre de côté. Il suffit d'ailleurs de randonner ou de passer la nuit seul en montagne pour se rendre compte que le danger peut être là. Et le danger, c'est souvent plutôt des vaches avec des petits que des meutes de loups, d'ailleurs.
Donc, Lionel Obadia, ce serait peut-être l'angoisse qui serait la chose dont on essaye de ne pas parler. Or, la nature aussi nous donne des angoisses.
Oui, mais soyons un tout petit peu complexe pour penser l'ambiguïté et l'ambivalence, justement, parce qu'il y a une grammaire de l'écoute qui fait que quelqu'un qui est formé dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou dans les sociétés agro-pastorales a des registres de sons pour savoir quel est le son dangereux, quel est le son pas dangereux du tout. Et de la même manière que l'œil est exercé pour savoir si, lorsqu'on va traverser un lac gelé, on peut, à cause de l'épaisseur de la glace, reconnaître à travers la texture et la couleur même de la surface la plus superficielle de la glace, eh bien, les oreilles sont aussi forcément et fortement travaillées, socialisées et culturellement éduquées à reconnaître le son ou le bruissement de quelque chose qui va arriver d'hostile de la nature et quelque chose qui l'est moins. Et là, évidemment, alors là, encore une fois, autour de la table, on se fait écho les uns les autres, mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée que l'effroi qui est créé là de manière subite par ces
sons étranges
peut être aussi quelque chose qui emporte vers quelque chose d'assez mystique. Et un petit rappel de ma tendre enfance, moi j'ai eu une maîtresse d'école, comme on disait quand j'étais petit, qui nous faisait écouter les chants des baleines. Et j'ai le souvenir que ça me faisait complètement flipper et que j'étais complètement stressé en disant « Mais quel est ce son étrange ?» D'autant plus qu'il avait un écho une réverbération et un écho sous-marin assez étonnant pour une oreille d'enfant que j'étais. Et de là, je crois que si toute ma génération a entendu la même chose, on a gardé un goût pour ces sons étranges en leur donnant une facette Janus. C'est-à-dire, ils peuvent à la fois être source d'effroi, mais en même temps source de quelque chose d'autre. Et justement, on est dans cette ambivalence fondamentale dans ces sons, je crois.
Christian Lorenzi, vous évoquez les phénomènes de ressourcement dans les sons de la nature, restorative effects, je crois que c'est beaucoup de gens travaillent là-dessus maintenant. Mais est-ce que dans ces travaux, on fait une part à l'angoisse, à l'effroi, à la fatigue? Parce qu'on dit toujours, les bruits de la ville nous fatiguent. Mais y a-t-il des gens qui sont fatigués par le son de la forêt, de la campagne?
Alors là, ça sera plus aux anthropologues de répondre à cette question. Je ne doute pas qu'il y ait une composante, par exemple, culturelle dans l'appréciation des sons de la nature. L'urbain, peut-être, va valoriser beaucoup plus l'écoute de ces sons naturels que une personne vivant à proximité de la jungle avec son cortège de dangers. Donc il y a certainement des effets culturels dans l'écoute. Par contre, pour rebondir sur ce qui a été dit il y a très peu de quelques minutes, l'écoute verte ou la prescription verte, c'est un courant qui se développe en psychiatrie que nous étudions avec beaucoup d'attention dans la mesure où aujourd'hui certains psychiatres proposent de rehausser l'efficacité des traitements de troubles de l'humeur, de la dépression, en suggérant à leurs patients d'aller visiter des parcs, des jardins régulièrement. Et je pense que ça, c'est une très bonne idée, une très très bonne idée, puis dans la mesure où ça ne coûte pas grand-chose d'aller s'exposer, ça ne peut faire que du bien. Et je pense qu'on devrait aussi s'inspirer de ça dans le domaine de l'audiologie.
Vous vouliez ajouter quelque chose,
Juste
Lionel Obadia?
En une seconde, le débat me fait penser à ces procès qui ont eu lieu dans les campagnes françaises par les néo-ruraux, les urbains qui venaient de s'installer et qui ont râlé à cause du cri du coq le matin et qui ont amené ça en justice en disant « mais nous avons besoin de tranquillité ». La nature était associée à une représentation de tranquillité alors qu'elle bruissait évidemment des bruits de l'affaire.
Et alors, résultat du procès?
Ils ont perdu, mais à leur décharge, c'était un coq qui chantait tout le temps.
Je crois que c'était pas le seul, en fait. Il y en a eu plusieurs.
Il veut sortir d'Astérix et Obélix.
Donc, laissons de la nature.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Nous parlons du silence cette semaine, de ses pouvoirs, de son étrange polyphonie. Et ce matin, nous évoquons le silence de la nature, qui n'en est peut-être pas un, depuis le début de cette matinée, enfin de cette émission. Christian Lorenzi, Anne Simon et Lionel Obadia évoquent une nature qui est très sonore et qui, paraît-il, nous ferait du bien si on l'écoutait davantage. Je voudrais qu'on parle maintenant littérature. Il y a un paradoxe. Anne Simon, c'est un sujet que vous connaissez bien. Un paradoxe de beaucoup, beaucoup d'écrivains, alors peut-être post-romantiques, le romantisme a davantage écouté la nature, mais post-romantiques, qui adorent le silence, qui considèrent que le bien-être, c'est la vraie quête du silence, et même lorsqu'ils parlent de la nature, qu'ils en font une métaphore, ils la voient comme quelque chose de très silencieux. Écoutez, évidemment, Franz Kafka, ce texte qui s'appelle « Le terrier », un texte écrit durant l'hiver 1923.
Ce qu'il y a de plus beau dans mon terrier, c'est son silence. Certes, il est trompeur, il peut être soudainement interrompu, et alors, c'est la fin de tout. Mais pour l'instant, il règne encore. Je peux déambuler des heures durant dans mes galeries sans rien entendre d'autre que, parfois, le frottement d'une quelconque petite bestiole, que je calme aussitôt entre mes dents, ou un ruissellement de terre qui me signale la nécessité de quelques réparations. Sinon, tout est silencieux. L'air de la forêt pénètre doucement, il est tout à la fois chaud et frais. Parfois je m'étire et me tourne et retourne dans la galerie, tellement je suis bien. En vue de la vieillesse qui approche, il est bon d'avoir un terrier comme celui-là, de s'être mis un toit sur la tête quand commence l'automne. Tous les 100 mètres à peu près, j'ai élargi les galeries pour en faire de petites places rondes où je peux confortablement me mettre en boule, profiter de ma propre chaleur et ne plus bouger. Je dors là du doux sommeil de la paix, du désir calmé, du but atteint, de la possession d'une maison. Je ne sais pas si c'est une habitude de l'ancien temps, ou si les dangers qui malgré tout menacent jusqu'à cette maison sont assez forts pour me réveiller, mais régulièrement, une frayeur soudaine me tire en sursaut d'un sommeil profond, et alors je tends l'oreille. J'essaie de percer ce silence qui règne ici immuablement, jour et nuit. Je souris, rassuré, et plonge tous les membres détendus dans un sommeil encore plus profond. Je suis couché là, sur une place protégée de tous côtés.
Il y en a plus de 50 du même genre dans mon terrier.
Et je sens s'écouler alors, entre la somnolence qui gagne et le sommeil sans conscience, les heures que je choisis à cette fin comme bon me semble.
Kafka, Le Terrier, lu ici par Damien Houssier. C'est une réalisation de Cédric Ossier sur France Culture qui a été diffusée en 2020. Anne Simon, Kafka, il ne veut que du silence, il ne veut pas de la nature qui parle. Je me trompe ?
C'est complexe cette histoire de terrier, der Bau, B-A-U en allemand. Hein. Qu'est-ce que c'est ? C'est une construction, c'est pas seulement un terrier. Ça peut être un cachot, ça peut être une tombe. Moi je dis que c'est aussi une arche, une matrice, etc.
Mais il y a du bien-être. Hein.
Et, là, oui, il y a du. Alors je suis très contente de cet extrait parce que dans le terrier, il y a des moments de stase, des moments de bonheur, des moments de. Voilà, de respiration comme ça, où la créature hybride de ce lieu souterrain, on se rend compte qu'elle est lovée en elle-même, que le terrier, c'est une sorte à la fois de matrice et d'exosquelette. Les galeries sont faites exactement à la mesure de son corps. Et donc, on se demande si cette créature, elle n'est pas en train de déambuler dans un grand corps qui serait son corps interne, en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est la nature ? En tout cas, c'est un terrier qui est creusé dans une forêt et tout bruit qui n'est pas émis de façon explicite par cette créature devient danger. C'est le signe de l'altérité. Et l'altérité chez Kafka, c'est l'adversaire, comme il le dit. Le problème, c'est que peu à peu, on se rend compte, sans que cette créature s'en prenne conscience elle-même, que c'est peut-être elle qui est en train de générer ce bruit qui vient parasiter le silence tant désiré, ce bruit qui provoque une espèce de veille incessante. C'est un être aux aguets, disait Deleuze, permanent, et que finalement, sa quête du silence, elle est tout le temps troublée par un bruit. Et ce bruit ne cesse pas de la quitter. Donc on se dit,
et ce bruit est-il toujours angoissant? Oui, quand même.
Oui,
hein.
Il est angoissant, sauf quand quand cette créature sait qu'elle, c'est elle qui l'aimait, ça lui pose pas de problème. Et on se rend compte peu à peu que peut-être que ce bruit, c'est tout simplement celui de sa propre respiration.
Alors vous avez écrit 4 livres sur Marcel Proust, et chez lui aussi, semble-t-il, il y a un fantasme. Un fantasme de ne rien entendre, comme s'il fallait envisager cela pour enfin trouver sa propre voix et la seule qui se fasse justement entendre. C'est un vrai fantasme d'écrivain, peut-être annoncé ou évoqué par un moment dans le côté de Guermantes, où Marcel, effectivement, utilise des bouchons d'oreilles. On écoute.
Certes, il arrive quelquefois qu'un malade auquel on a hermétiquement bouché les oreilles n'entende plus le bruit d'un feu, pareil à celui qui rabâchait en ce moment dans la cheminée de Saint-Loup, tout en travaillant à faire des tisons et des cendres qu'il laissait ensuite tomber dans sa corbeille. N'entende pas non plus le passage des tramways dont la musique prenait son vol à intervalles réguliers sur la grande place de Doncières. Dans la chambre elle-même, le malade vient de créer, non pas comme Prométhée le feu, mais le bruit du feu. Et en augmentant, en relâchant les tampons d'ouates, c'est comme si on faisait jouer alternativement l'une et l'autre des deux pédales qu'on a ajoutées à la sonorité du monde extérieur. Seulement, il y a aussi des suppressions de bruit qui ne sont pas momentanées. Celui qui est devenu entièrement sourd ne peut même pas faire chauffer auprès de lui une bouillotte de lait sans devoir guetter des yeux sur le couvercle ouvert, le reflet blanc hyperboréen, pareil à celui d'une tempête de neige et qui est le signe prémonitoire auquel il est sage d'obéir en retirant, comme le Seigneur arrêtant les flots, les prises électriques. Car déjà l'œuf ascendant et spasmodique du lait qui bout accomplit sa crue en quelques soulèvements obliques, enfle, arrondit quelques voiles à demi chavirées qu'avait plissé la crème et lance dans la tempête une en acre et que l'interruption des courants, si l'orage électrique est conjuré à temps, fera toute tournoyer sur elle-même et jettera, à la dérive, changée en pétales de magnolia. Si le malade n'avait pas pris assez vite les précautions nécessaires, bientôt ses livres et sa montre engloutis émergeraient à peine d'une mer blanche après ce mascaret lacté. Il serait obligé d'appeler au secours sa vieille bonne, qui, fût-il lui-même un homme politique illustre ou un grand écrivain, lui dirait qu'il n'a pas plus de raison qu'un enfant de 5 ans.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Je vous avoue, Anne-Simon, que je ne comprends pas bien ce texte de Proust. Je ne comprends pas la scène. Est-ce une expérience? Est-ce de l'ordre, non pas du récit, mais du discours, une sorte de proposition à propos des gens qui n'entendent pas bien? Qu'est-ce que nous raconte là Proust sur le silence?
Ce qui est très intéressant dans ce texte, d'abord, c'est qu'il montre que quand on perd un sens, alors c'est peut-être un peu idéaliste, mais peu importe, quand on perd un sens, on gagne un redéploiement du monde et on gagne quelque chose. Pour Proust, un sens en moins, c'est pas une disparition de sensibilité, c'est un accroissement. Et vous avez tout à fait raison, Géraldine, c'est une sorte d'exercice de style que fait Proust et d'exercice de pensée et de sensibilité en même temps. Donc ça, j'aime bien, évidemment, parce que par l'exercice de langage, il va essayer de comprendre ce que peut être le monde d'un sourd complet. Et alors, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, il y a une auto-parodie et une parodie du romantisme. Il démarre sur un mot, il démarre sur un adjectif qui est le hyperboréen. Voilà. Et là, il va nous construire à partir du lait qui bout et qui déborde d'une casserole, l'image d'une immense inondation, d'une tempête.
Parce qu'il n'est pas prévenu par les sons que le lait bout.
Exactement.
Mais du coup, pardonnez-moi, on retrouve l'angoisse là, ou je me trompe?
C'est, C'est moins de langue. Non. C'est une jubilation pour Proust que de se dire que le son, normalement associé à la vue, fait que, à tout effet, précède une cause. C'est-à-dire que quand on vit dans un monde auquel on est habitué, eh bien, si le feu s'écroule, on n'est pas étonné parce qu'on l'entend et on le voit en même temps. Quand un des sens disparaît, du coup, il y a une sorte de magie qui s'effectue, qui pourrait être angoissante, mais qui pour Proust est plutôt, au contraire, un enrichissement.
Est-ce que c'est parce que à ce moment-là, plus rien n'émet de son? Et il n'y a plus que la voix du poète ou de l'écrivain.
Il y a la voix du poète, mais aussi la construction d'un paysage complet, en l'occurrence arctique, avec une allusion au Seigneur qui ouvre la mer Rouge, qui est assez amusante. Mais dans sa casserole, le sourd voit le lait monter, et là, il voit une tempête de neige, il voit cet œuf spasmodique qui est en train de monter comme si c'était un paysage emporté dans la tempête, et puis dans un orage électrique, comme le dit Proust. Et puis en réalité, c'est tout simplement du lait qui est en train de sortir de cette casserole. Et ce que veut nous montrer finalement le Proust, c'est que le silence du monde nous permet de mieux voir ou de voir autrement.
Oui, alors beaucoup d'écrivains, on en a parlé, personnellement j'ai cité Nerval, on a évoqué Kafka, vous venez de parler de Proust, semble aimer une nature silencieuse qui, en n'ayant plus tous ces bruits, permet qu'on s'entende soi-même. Au fond, c'est comme s'il y avait une même inquiétude littéraire au sujet des bruits de la ville que des bruits de la nature non urbaine. C'est-à-dire, trop de bruits m'empêchent de m'entendre. Est-ce que vous, Christian Lorenzi, quand vous vous intéressez aux expériences des gens qui écoutent des sons de la nature, vous avez ce genre de réaction, de gens qui disent « bon, ça suffit maintenant, que ce soit ceux du tracteur ou les sons des oiseaux. Pitié, un peu de silence, je voudrais m'entendre moi-même. »
Bon, c'est une trivialité que de dire qu'un grand nombre de sons nous distrait, nous ennuie. Particulièrement les sons urbains, les sons que l'homme produit, qui généralement masquent les sons d'intérêt. On pense essentiellement, malheureusement, aux sons de parole. Nous avons envie de comprendre ce qu'on nous dit dans un café, un restaurant bruyant, et tout ce qui n'est pas parole doit être supprimé. Mais le texte de Proust, moi je pense, nous rappelle à quel point nous sommes dépendants des sons environnementaux. C'est une simple scène domestique, mais elle rappelle à quel point notre capacité à nous construire un sens de là où nous sommes et quand nous sommes dépend également notre capacité à entendre ces sons peut-être quelconques, le bruit de l'eau qui boue, le vent dans les feuillages, le chant du coq, mais qui nous permettent de nous situer ici et maintenant. Moi, je suis toujours fasciné par les intuitions vraiment fulgurantes de grands auteurs, Marcel Proust par exemple, en matière de psychologie de la perception, mais Kafka dans cet exercice, en nous présentant l'umwelt, le monde sensoriel propre d'un animal non humain, nous montre à quel point les mondes sensoriels sont variés, sont mouvants, sont évolutifs. Nous habitons dans une infinité de mondes sensoriels. Alors certains nous sont accessibles, d'autres non.
Lionel Obadia, les échos spiritualistes cherchent-ils le silence ou le bruit?
Moi, je vais décaler sur d'autres choses et des réactions en dialogue avec mes deux collègues ici, avec votre autorisation. Moi, ça me fait penser à deux auteurs et à un exemple historique. Les deux auteurs, d'abord, il y a David Le Breton, qui est un anthropologue de l'Université de Strasbourg, qui a publié un très bel article qui s'appelle Anthropologie du silence, dans lequel ça fait écho à Proust, et il revient justement sur ce fait que cette introspection, ce retour sur soi-même, cette espèce de quiétude, c'est la rencontre avec un alter, mais un alter qui est à la fois soi et à la fois quelqu'un d'autre, parce qu'il y a plusieurs miroirs. Et donc, toute quiétude est une inquiétude. C'est un texte dont je conseille quand même la lecture, oui. Et qui est fondé sur des expériences spirituelles, c'est-à-dire des expériences du retrait monastique ou du retrait, justement, de la vie. Deuxième chose, c'est un texte classique maintenant de Lévi-Strauss en 1950, dans l'introduction à l'œuvre de Marcel Mauss, un truc un peu spécialisé, dans lequel il prend une posture qui dit « le monde humain, c'est le monde du langage ». Et il a cette formule qui est assez violente, mais assez intéressante également, en disant « le monde était silencieux avant l'invention du langage ». Et à partir de l'invention du langage, le monde est devenu bruissant, fracassant, etc., turbulent, mais pas pour autant signifiant. C'est ça qu'on essaye de travailler, justement, une espèce d'articulation entre les registres de son et les sonorités, et donc les univers sensoriels qui viennent d'être mentionnés. Et la troisième chose, ça me fait penser à un exemple complètement trivial, et je suis désolé de revenir là-dessus, mais je pense à Victor de l'Aveyron. Et Itard qui ramène Victor de l'Aveyron dans ce centre pour sourds-muets, et Victor de l'Aveyron qui est complètement insensible à un bruit de fusil ou de balle qui passe à côté de son oreille, et en revanche quand il entend le craquement d'une noix à l'autre bout de la maison, il repère. Donc il y a une sorte de sélectivité des sons qui est liée au fait en plus que Victor de l'Aveyron, c'est peut-être sans doute l'exemple le plus intéressant
alors,
pour nous.
Comme il n'est pas connu de tout le monde, je veux bien que Anne Simon ou Christian Lorenzi nous en parle un peu plus. Vous connaissez aussi cet exemple ?
C'est l'enfant un des sauvage, enfants oui. sauvages, oui. Voilà, qui a d'ailleurs inspiré un film de Truffaut. Si
ouais, un super film de Truffaut. Ouais.
Et c'était assez terrible, parce que ces enfants sauvages, qu'à partir notamment du XVIIIe siècle, on trouve dans la nature parce qu'ils ont été perdus, qu'ils se sont perdus, etc., qui passent des années à vivre auprès d'animaux. Et Mowgli, évidemment, en est un exemple extraordinaire dans le livre de la jungle de Rudyard Kipling. Eh bien, c'est assez terrible quand on les récupère, parce que avec les mentalités médicales du 18e, du 19e, malheureusement, on leur fait une violence inouïe en essayant de les rééduquer, en quelque sorte. Et donc, on ne se rend pas compte que, exactement comme l'a dit Lionel Obadia, ils ont développé une éco-acousticité et un rapport au monde sonore et vibratoire, etc., qui était d'une richesse extraordinaire, et puis que vouloir leur imposer le langage trop tard, c'est les détruire finalement.
Anne Simon, concernant la littérature, à la fin de cette émission, il nous reste quelques secondes, est-ce que vous accepteriez que je dise que les écrivains sont tous ambigus, ils veulent et écouter des choses et ne rien entendre parce que le silence leur permet de s'entendre, eux? Non, vous n'êtes pas d'accord.
D'accord.
Merci d'accord beaucoup, pour votre désaccord. Alors, vous diriez les choses comment pour
moi, je dirais que pour un très très grand nombre d'écrivains, de Proust à Verlaine, à Marguerite Duras, Giono, etc., le silence est interne au langage poétique. Le silence fait partie de la nature, mais de la nature sonore, exactement comme dans la musique.
Oui.
Il n'y a pas de musique sans silence, sans pause, sans coda, etc. Et de même, dans le style, il n'y a pas d'expression de soi sans des moments de silence qui ne sont pas des impérialismes sur le monde naturel ou autre, mais au contraire, la plus belle manière de rendre compte des silences de la nature.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence.
Merci beaucoup Anne Simon, Lionel Obadia, Christian Lorenzi. Les références de vos travaux sont sur le site de notre émission. Voici à présent la chronique de Frédéric Worms qui nous parle de morale et de politique cette semaine. Voici le pourquoi du comment.
Comment faut-il relier la morale et la politique ? Lorsque l'on parle de cette question, qui peut sembler une question de cours de philosophie, depuis la terminale jusqu'au plus grand classique de l'histoire de la pensée humaine, cette question du lien entre morale et politique, on la pose souvent malgré tout d'une manière très abstraite. Pour savoir comment l'action politique doit avoir sa propre morale, sa morale en quelque sorte interne, primaire, qui est d'abord finalement de défendre une société contre des dangers communs, contre la destruction, qu'elle vienne d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit avec d'autres sociétés, d'une guerre ou de la misère ou de la famine ou de la lutte contre les dangers naturels. Encore une fois, il y a une morale de la politique. Le politique est la capacité des humains à s'organiser pour survivre et finalement la survie est le salut du peuple et la loi suprême, comme dit un proverbe latin, salus populi suprema lex. Et donc il y a une morale dans cette politique de la survie commune. Il y a donc ce lien entre la politique et la morale et d'un autre côté la volonté aussi, qui peut sembler abstraite justement, de soumettre la politique à des impératifs moraux plus vastes, au fait de ne pas commettre d'injustice, même au nom de la survie, de respecter les grands principes, de respecter la liberté, l'égalité, la fraternité, les droits et les devoirs des êtres humains les uns envers les autres. Le débat entre politique et morale, finalement, semble partagé entre cette morale minimale de la politique, qui est quand même une morale, la morale de la survie commune, notamment dans les urgences, et au nom de laquelle la politique serait justifiée à tous les moyens, d'un côté, et d'autre part, une sorte de morale maximale, la politique devant respecter les impératifs complets d'une éthique générale, d'une éthique des relations entre les êtres humains. Ces deux extrêmes du lien entre morale et politique semblent partagés aujourd'hui entre les réalistes, les pragmatiques, d'un côté, la politique de la force, et d'un autre côté, les idéalistes, la politique du droit, y compris du droit international. Mais entre les deux, il y a des liens plus concrets entre morale et politique, des liens plus concrets qui ont tissé dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire des sociétés antiques et modernes et contemporaines, qui ont tissé la véritable relation entre les actions des êtres humains à ces deux niveaux de la morale et de la politique qui ne sont pas seulement opposés. La politique, ce n'est pas seulement en effet l'action politique générale qui conduit une société comme une totalité face à des dangers communs. La politique, c'est aussi deux autres choses. C'est d'abord la nécessité de concilier les oppositions entre des êtres humains dans une société, de gérer les actions inter-individuelles dans une société. Du coup, elle est forcément concernée par la morale, puisqu'il faut le faire de façon juste. Aucune politique ne peut se contenter de lutter contre les grandes urgences communes. Elle doit aussi arbitrer en interne, entre les conflits internes à une société pour éviter les violences et les violations inter-individuelles. Et il y a encore un autre niveau qu'on oublie très souvent, qui est celui des actions individuelles des hommes politiques. Au fond, le lien aussi entre morale et politique descend jusqu'à la façon dont ceux à qui l'on confie le pouvoir, qui sont des gouvernants ou des gouvernantes individuelles toujours, respectent dans leur action des principes moraux, de telle sorte que l'action des dirigeants, l'action des magistrats, comme on disait du temps de Platon et encore de Jean-Jacques Rousseau dans l'Émile, l'action de ceux qui gouvernent est nécessairement un modèle aussi pour ceux qui agissent, et il y a des liens très profonds entre le fait pour une personne d'agir moralement ou même dans des responsabilités politiques et le lien entre morale et politique. Inversement, l'action individuelle ne peut être seulement individuelle. Nous définissons la morale aussi par nos relations inter-individuelles et par le respect des lois politiques. Ainsi, le lien entre morale et politique n'est pas juste une abstraction pour des cours de terminale, et il faut faire ce cours en terminale bien entendu, mais c'est aussi un lien concret dans nos vies.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger, qui a choisi tout un tas de sons d'oiseaux que vous nous aviez envoyés. Merci Nicolas, avec à la technique Ruben Carmazine. Elle a été préparée en particulier par Philippine de Bellois et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Carla Michel, Chaïma Giboire, Anna Fulpin et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.